les doges et les sénateurs qui, ainsi que nous l'avons dit, étaient déjà prévenus de l'événement qui amenait Caracciolo devant eux, l'avaient écouté avec un grand intérêt et une profonde indignation. Car, ainsi qu'ils l'avaient dit, ils étaient insultés eux-mêmes dans la personne de leur général. Aussi lui jurèrent-ils tous, sur leur honneur, que s'il voulait s'en remettre à eux au lieu de s'abandonner à une colère qui ne pouvait que le perdre, ou sa femme lui serait rendue sans qu'une seule tache eût souillé son voile nuptial, ou il en serait tiré une vengeance proportionnée à l'affront. Aussitôt, et comme preuve de l'empressement que mettait à cette affaire le noble tribunal, Louis Mannenti, secrétaire des Dix, fut envoyé à Imola, où l'on disait que se trouvait le duc, afin de lui exprimer tout le déplaisir qu'éprouvait la sérénissime République de l'outrage fait à son condottiere. En même temps, le conseil des Dix et le Doge allaient retrouver l'ambassadeur de France, le priant de se joindre à eux et de se rendre en personne avec Mannenti près du duc de Valentinois pour le sommer, au nom du roi Louis XII, de renvoyer à l'instant même à Venise celle qu'il avait enlevée. Les deux messagers se rendirent à Imola, où ils trouvèrent César, qui écouta leur réclamation avec les marques du plus parfait étonnement, niant qu'il fût pour quelque chose dans ce crime, dont il autorisait Mannenti et l'ambassadeur de France à poursuivre leurs auteurs, tandis que, de son côté, il promit de faire faire les perquisitions les plus actives. Le duc avait une telle apparence de bonne foi que les envoyés de la Sérénissime République y furent un instant trompés et entreprirent les recherches les plus minutieuses. En conséquence, ils se rendirent sur les lieux mêmes et commencèrent à prendre des informations. On avait trouvé sur la grande route les morts et les blessés. On avait vu passer un homme, emportant une femme éplorée au grand galop de son cheval. Bientôt, il avait quitté le chemin frayé et s'était élancé à travers terre. Un paysan qui revenait de travailler aux champs l'avait vu apparaître et s'évanouir comme une ombre, prenant la direction d'une maison isolée. Une vieille femme disait l'avoir vu entrer dans cette maison. Mais dans la nuit du lendemain, la maison avait disparu comme par enchantement et la charrue avait passé à sa place, de sorte que nul ne pouvait dire ce qu'était devenu celle que l'on cherchait, puisque ceux qui habitaient la maison, et même la maison, n'étaient plus là. Mannenti et l'ambassadeur de France revinrent à Venise, racontant ce que le duc de Valentinois leur avait dit, ce qu'ils avaient fait et comment leurs recherches avaient été sans résultat. Nul n'eut aucun doute que César ne fût le coupable, mais nul aussi ne put lui prouver qu'il l'était. En conséquence, la Sérénissime République, qui, à cause de sa guerre contre les Turcs, ne pouvait se brouiller avec le pape, défendit à Caracciolo de tirer aucune vengeance particulière de cet événement, dont le bruit s'éteignit peu à peu et dont on finit par ne plus parler. Cependant, les plaisirs de l'hiver n'avaient point détourné César de ses projets sur Faenza. Aussi, à peine le retour du printemps lui permit-il de se mettre en campagne, qu'il marcha de nouveau vers la ville, campa vis-à-vis du château, et, après avoir pratiqué une nouvelle brèche, ordonna un assaut général auquel il monta le premier. Mais, en dépit du courage qu'il y déploya de sa personne, et si bien qu'il fut secondé de ses soldats, ils furent repoussés par Astor, qui, à la tête de ses hommes, faisait face sur la brèche, tandis que les femmes elles-mêmes, du haut des remparts, roulaient sur les assiégeants des pierres et des troncs d'arbres. Après une heure de lutte corps à corps, César fut forcé de se retirer, laissant 2000 hommes dans les fossés de la ville, et parmi ces 2000 hommes, Valentin Farnèse, un de ses plus braves condottieri. Alors César, voyant que ni excommunication ni assaut ne pouvaient rien, convertit le siège en blocus. Toutes les routes qui conduisaient à Faenza furent coupées, toutes les communications interrompues, et comme plusieurs signes de révolte s'étaient fait remarquer à Cézène, il y mit pour gouverneur un homme dont il connaissait la puissante volonté, nommé Ramiro d'Orco, avec pouvoir de vie et de mort sur les habitants. Puis il attendit, tranquille, devant Faenza, que la faim fit sortir les habitants de ces murailles qu'ils s'acharnaient avec tant d'entêtement à défendre. En effet, au bout d'un mois, pendant lequel les Faillantins avaient subi toutes les horreurs de la famine, des parlementaires vinrent au camp de César pour proposer une capitulation. César, à qui il restait beaucoup à faire en Romagne, se montra plus facile qu'on n'eût pu l'espérer, et la ville se rendit à la condition qu'on ne toucherait ni à la personne ni au bien des habitants. Castor Manfred et son jeune souverain auraient la faculté de se retirer où ils voudraient, et partout où ils seraient retirés, jouiraient du revenu de son patrimoine. Les conditions furent fidèlement remplies à l'égard des habitants. Mais César, ayant vu Astor qu'il ne connaissait pas, fut pris d'une étrange passion pour ce beau jeune homme qui ressemblait à une femme. Il le garda donc auprès de lui dans son armée, lui faisant honneur comme à un jeune prince et paraissant aux yeux de tous avoir pour lui la plus vive amitié. Puis, un jour, Astor disparut, comme avait fait la fiancée de Cariaciolo, sans que personne sût ce qui était advenu de lui. César lui-même parut fort inquiet, dit qu'il s'était sauvé sans doute, et pour faire croire à cette fuite, envoya après lui des courriers dans toutes les directions. Un an après cette double disparition, on trouva dans le Tibre, un peu au-dessous du château Saint-Ange, le corps d'une belle jeune femme dont les mains étaient liées derrière le dos, et le cadavre d'un beau jeune homme ayant encore autour du cou la corde de l'arc avec laquelle on l'avait étranglée. La jeune femme était la fiancée de Caracciolo, le jeune homme était Astor. Tous deux avaient servi pendant 7 années au plaisir de César, qui, s'étant enfin lassé d'eux, les avait fait jeter dans le Tibre. Au reste, la prise de Faenza valut à César le titre de duc de Romagne, qui lui fut d'abord donné en plein consistoire par le pape, et qui fut ratifié ensuite par le roi de Hongrie, la République de Venise et les rois de Castille et de Portugal. La nouvelle de cette ratification parvint à Rome la veille du jour où le peuple avait l'habitude de célébrer l'anniversaire de la fondation de la ville éternelle. Cette fête, qui datait de Pomponius Vétus, acquit une nouvelle splendeur des événements heureux qui venaient d'arriver à son souverain. Le canon tira toute la journée en signe de joie. Le soir, il y eut des illuminations et des feux d'artifice, et pendant une partie de la nuit, le prince de Scilacce, accompagné des principaux seigneurs de la noblesse romaine, parcourut les rues de la ville, portant des torches à la main et criant « Vive Alexandre, vive César, vive les Borgia, vive les Orsini, vive le duc de Romagne !» Cependant, l'ambition de César croissait avec ses victoires. À peine fut-il maître de Faenza qu'excité par les Marescotti, anciens ennemis des Bentivoglio, il jeta les yeux sur Bologne. Mais Jean de Bentivoglio, dont les ancêtres de temps immémorial possédaient cette ville, non seulement avait fait tous les préparatifs nécessaires pour faire une longue résistance, mais encore il s'était mis sous la protection de la France. De sorte qu'à peine eut-il appris que César se dirigeait vers la frontière du Bolognais avec son armée, qu'il envoya un courrier à Louis XII pour réclamer la parole donnée. Louis XII la tint avec sa fidélité ordinaire, et comme César arrivait devant Bologne, il reçut une invitation du roi de France de ne rien entreprendre contre son allié Bentivoglio. Mais comme César n'était pas homme à s'être dérangé pour rien, il fit ses conditions de retraite, auxquelles Bentivoglio souscrivit, trop heureux d'en être quitte à ce prix. C'était la cession de Castel Bolognese, forteresse située entre Imola et Faenza, la promesse d'un tribut de 9 000 ducats et l'entretien à son service de 100 hommes d'armes et de 2 000 fantassins. En échange de ces avantages, César Borgia confia à Bentivoglio qu'il était redevable de sa visite au conseil des Mariscotti. Puis, renforcé du contingent de son nouvel allié, il prit la route de la Toscane. Mais à peine était-il hors de vue que Bentivoglio fit fermer les portes de Bologne, chargea son fils Hermès d'assassiner de sa main Agamemnon Mariscotti, chef de la famille, tandis qu'il faisait massacrer de son côté 34 de ses frères, fils, filles ou neveux, et 200 de leurs parents et amis. Cette boucherie fut faite par les plus nobles jeunes gens de Bologne, que Bentivoglio força de tremper dans ce meurtre, afin de les attacher à lui par crainte des représailles. Les projets de César sur Florence commençaient à n'être plus un mystère. Dès le mois de janvier, il avait envoyé à Pise, Régnier de la Sassetta et Pierre des Gamba Corti avec 1 000 à 1 200 hommes, et aussitôt la conquête de la Romagne achevée, il avait encore acheminé vers cette ville Oliverotto da Fermo avec de nouveaux détachements. De son côté, comme on le voit, il avait renforcé son armée de 100 hommes d'armes et de 2000 fantassins. Il venait d'être rejoint par Vitellozzo Vitelli, seigneur de Città di Castello, et par les Orsini qui lui avaient amené encore 2 ou 3 000 hommes. De sorte qu'il avait sous ses ordres, sans compter les troupes envoyées à Pise, 700 hommes d'armes et 5 000 fantassins. Cependant, malgré cette formidable assemblée, il n'entra en Toscane qu'en protestant de ses intentions pacifiques et en déclarant qu'il voulait seulement traverser les États de la République pour se rendre à Rome, offrant de payer comptant tous les vivres dont son armée aurait besoin. Mais lorsque, après avoir passé les défilés des montagnes, il fut arrivé à Barberino, comme il sentit que la ville était en sa puissance et que rien ne pouvait plus lui en défendre les approches, il commença à mettre à prix l'amitié qu'il avait offerte et à imposer des conditions au lieu d'en recevoir. Ces conditions étaient que Pierre de Médicis, parent et allié des Orsini, fût rétabli dans son ancienne autorité, que 6 bourgeois de la ville, désignés par Vitellozzo, fussent remis entre ses mains afin qu'ils expiassent par leur mort celle de Paul Vitelli, exécuté injustement par les Florentins, que la seigneurie s'engagea à ne donner aucun secours au seigneur de Piombino, qu'il comptait déposséder incessamment de ses états, enfin que la République le prit, lui, César, à son service, avec une solde proportionnée à son mérite. Mais comme César en était là de ses négociations avec Florence, il reçut de Louis XII l'ordre de se préparer, ainsi que la chose avait été convenue, à le suivre avec son armée dans la conquête de Naples, qu'il était enfin en état d'entreprendre. César n'osait point manquer de parole à un si puissant allié. Il lui fit donc répondre qu'il était à ses ordres. Et comme les Florentins ignoraient qu'il fut forcé de quitter la Toscane, il se fit acheter sa retraite, moyennant une somme de 36 000 ducats par année, en échange de laquelle il devait tenir 300 hommes d'armes, toujours prêts à secourir la République, à son premier appel et dans tous ses besoins. Cependant, si pressé que fut César, il espéra qu'il aurait encore le temps de conquérir en passant le territoire de Piombino et d'emporter sa capitale par un vigoureux coup de main. En conséquence, il entra sur les terres de Jacques IV d'Appiano. Mais il trouva que celui-ci avait, d'avance, et pour lui ôter toute ressource, dévasté son propre pays, brûlé les fourrages, coupé les arbres, arraché les vignes et détruit le petit nombre de fontaines qui donnaient des eaux salubres. Cela ne l'empêcha point de s'emparer en peu de jours de Severetto, de Scarlino, de l'île d'Elbe et de la Pianos. Mais force lui fut de s'arrêter devant le château qui offrait une sérieuse résistance. Or, comme l'armée du roi Louis XII continuait son chemin vers Rome et qu'il reçut, le 27 juillet, un nouvel ordre de la rejoindre, il partit le lendemain, laissant, pour poursuivre le siège en son absence, Vitellozzo et Jean-Paul Baglioni. Cette fois, Louis XII s'avançait vers Naples, non plus avec la bouillante imprévoyance de Charles VIII, mais, au contraire, avec la prudente circonspection qui lui était habituelle. Outre son alliance avec Florence et Rome, il avait encore signé un traité secret avec Ferdinand le Catholique, qui prétendait avoir, par la maison de Duras, les mêmes droits sur le royaume de Naples que Louis XII avait par la maison d'Anjou. Par ce traité, les deux rois se partageaient d'avance leurs conquêtes. Louis XII serait maître de Naples, de la terre de la Bourre et des Abruzzes, avec le titre de roi de Naples et de Jérusalem. Ferdinand se réservait la Pouille et la Calabre, avec le titre de duc de ses provinces. Tous deux devaient ensuite recevoir l'investiture du pape et relever de lui. Or, ce partage avait d'autant plus de chances d'être mis à exécution que Frédéric, croyant toujours Ferdinand son bon et fidèle ami, devait lui ouvrir les portes de ses villes et recevoir, au lieu d'alliés, dans ses forteresses, des vainqueurs et des maîtres. Tout cela n'était peut-être pas très loyal de la part d'un roi qui avait si longtemps ambitionné et qui venait de recevoir le surnom de catholique, mais peu importait à Louis XII qui profitait de la trahison sans la partager. L'armée française, à laquelle venait de se réunir le duc de Valentinois, se composait de 1 000 lances, de 4 000 Suisses et de 6 000 Gascons et aventuriers. D'un autre côté, Philippe de Rabenstein conduisait par mer 16 vaisseaux bretons et provençaux et 3 caraques génoises portant 6 500 hommes de débarquement. le roi de Naples n'avait à opposer à cette nombreuse assemblée que 700 hommes d'armes, 600 chevaux légers et 6000 fantassins qu'il avait mis sous le commandement des Colonna, qu'il avait pris à sa solde depuis que le pape les avait chassés des états de l'Église. Mais il comptait fort sur Gonsalve de Cordoue, qui devait venir le rejoindre à Gaète et à qui, dans sa confiance, il faisait ouvrir toutes les forteresses de la Calabre. Mais la sécurité qu'inspirait à Frédéric son infidèle allié ne fut pas longue. En arrivant à Rome, les ambassadeurs français et espagnols présentèrent au pape le traité signé à Grenade le 11 novembre 1500 entre Louis XII et Ferdinand le Catholique, traité qui, jusqu'alors, était demeuré secret. Alexandre, qui, dans sa prévoyance des choses à venir, avait dénoué par la mort d'Alphonse tous les liens qu'il attachait à la maison d'Aragon, commença cependant par faire quelques difficultés. Mais alors, il lui fut démontré que cet arrangement n'avait été pris que pour donner aux princes chrétiens de nouveaux moyens d'attaquer l'Empire ottoman, et devant une pareille considération, comme on le comprend bien, tous les scrupules du pape devaient céder. Aussi se décida-t-il, le 25 juin, à rassembler un consistoire qui déclara Frédéric déchu du trône de Naples. Frédéric, en apprenant à la fois l'arrivée de l'armée française à Rome, la trahison de son allié Ferdinand et la déchéance prononcée par Alexandre, comprit bien que tout était perdu. Cependant, il ne voulut pas qu'il fût dit qu'il avait abandonné son royaume sans avoir même essayé de le défendre. En conséquence, il chargea Fabrice Colonna et Ranucce de Marciano, ses deux nouveaux condottieri, d'arrêter les Français devant Capoue, avec 300 hommes d'armes, quelques chevaux légers et 3000 fantassins, occupa de sa personne Averse avec une autre partie de son armée, tandis que Prosper Colonna devait, avec le reste, défendre Naples et faire face aux Espagnols du côté de la Calabre. Ces dispositions étaient à peine prises que d'Aubigny, ayant passé le Vulturne, vint mettre le siège devant Capoue et investit cette ville de l'un et de l'autre côté du fleuve. À peine campés devant les remparts, les Français commencèrent à établir leurs batteries, qui bientôt se mirent à jouer à la grande terreur des pauvres assiégés, qui, presque tous étrangers à la ville, y étaient accourus de toutes parts, croyant trouver un abri derrière ses murailles. Aussi, dès que le premier assaut eut été donné par les Français, quoiqu'il eût été bravement repoussé par Fabrice Colonna, la terreur se répandit-elle dans la ville, si grande et si aveugle que chacun parla aussitôt d'ouvrir les portes, et que ce fut à grand-peine que Colonna fit comprendre à cette multitude qu'il fallait au moins profiter de l'échec éprouvé par les assiégeants pour obtenir d'eux une bonne capitulation. Les ayant donc ramenés à son avis, il envoya des parlementaires à Daubigny, et une conférence fut arrêtée pour le surlendemain, dans laquelle on traiterait de la reddition de la ville. Mais ce n'était point là l'affaire de César Borgia. Resté en arrière pour conférer avec le pape, il avait rejoint l'armée française avec une partie de ses troupes, le jour même où la conférence avait été indiquée pour le surlendemain. Or, une capitulation quelconque devait lui enlever la part de butin et de plaisir que lui promettait la prise d'assaut d'une ville aussi riche et aussi peuplée que Capoue. En conséquence, il entama de son côté des négociations avec un des chefs chargés de la défense d'une porte, négociations sourdes et dorées, toujours plus promptes et plus efficaces que les autres. De sorte que, au moment même où Fabrice Colonna discutait dans un bastion avancé les conditions de la capitulation avec les capitaines français, on entendit tout à coup de grands cris de détresse. C'était Borgia qui, sans prévenir personne et accompagné de sa fidèle armée de la Romagne, venait d'entrer dans la ville et commençait à égorger la garnison, laquelle, sur la foi de la capitulation prête à être signée, s'était relâchée de sa vigilance. De leur côté, les Français, voyant la ville à moitié rendue, se ruèrent sur les portes avec une telle impétuosité que les assiégés ne cherchèrent plus même à les défendre et pénétrèrent dans Capoue par trois côtés différents. Alors, il n'y eut plus moyen de rien arrêter. La boucherie et le pillage avaient commencé, il fallait que l'œuvre de destruction s'accomplît tout entière. En vain, Fabrice Colonna, Ranucce de Marciano et Don Hugo de Cardona essayèrent-ils de faire face à la fois, avec quelques hommes qu'ils avaient rassemblés, aux Français et aux Espagnols. Fabrice Colonna et Don Hugo furent faits prisonniers, Ranucce blessé d'un trait d'arbalète, tomba entre les mains du duc de Valentinois, 7000 habitants furent massacrés dans les rues, parmi lesquels se trouva le traître qui avait livré la porte, les églises furent pillées, les couvents de religieuses forcés. Et alors, on vit une partie de ces saintes filles se précipiter dans les puits ou se jeter dans le fleuve pour échapper aux soldats. 300 des plus nobles femmes de la ville s'étaient réfugiées dans une tour. Le duc de Valentinois en enfonça les portes, choisit pour lui les 40 plus belles et livra le reste à son armée. Le pillage dura 3 jours. Capot emporté, Frédéric comprit qu'il était inutile qu'il essayât plus longtemps de se défendre. En conséquence, il s'enferma dans le château neuf et permit à Gaët et à Naples de traiter avec le vainqueur. Gaët se racheta du pillage, moyennant 60 000 ducats, et Naples moyennant la reddition du château, qui fut faite à Daubigny par Frédéric lui-même, à la condition qu'il pourrait faire conduire dans l'île d'Ischia son argent, ses bijoux et ses meubles, et y rester avec sa famille pendant 6 mois, à l'abri de toute hostilité. Cette capitulation fut fidèlement tenue de part et d'autre. Daubigny entra dans Naples et Frédéric se retira à Ischia. Ainsi tomba, d'une dernière et terrible chute, et pour ne plus se relever jamais, cette branche de la maison d'Aragon qui avait régné 65 ans. Frédéric, qui était son chef, demanda et obtint un sauf-conduit pour passer en France, où Louis XII lui accorda le duché d'Anjou et 30 000 ducats de rente, à la condition qu'il ne quitterait plus le royaume, où il mourut en effet le 9 septembre 1504. Son fils aîné, Don Ferdinand, duc de Calabre, se retira en Espagne, où on lui permit de se marier 2 fois, mais avec des femmes dont la stérilité était reconnue, et où il mourut en 1550. Alphonse, le second fils, qui avait suivi son père en France, mourut empoisonné, dit-on, à Grenoble, à l'âge de 22 ans. Enfin, César, le troisième fils, mourut de son côté à Ferrare, avant d'avoir atteint sa 18e année. Quant à Charlotte, sa fille, elle épousa en France Nicolas, comte de Laval, gouverneur et amiral de Bretagne. Une fille naquit de ce mariage. Ce fut Anne de Laval qui fut mariée à François de la Trimouille, et c'est par elle qu'avaient été transmis à la maison de la Trimouille les droits que cette maison fit valoir depuis sur le royaume des deux Siciles. La prise de Naples rendit au duc de Valentinois sa liberté. Il quitta donc l'armée française après avoir reçu de son chef de nouvelles assurances de l'amitié du roi Louis XII et revint au siège de Piombino qu'il avait été forcé d'interrompre. Pendant ce temps, le pape Alexandre visitait les conquêtes de son fils et parcourait toute la Romagne, accompagné de Lucrèce, qui s'était enfin consolée de la mort de son mari et qui n'avait jamais joui près de sa sainteté d'une si grande faveur. Aussi, en revenant à Rome, n'eut-elle plus d'autre appartement que ceux de son père. Il résulta de cette recrudescence d'amitié pontificale deux bulles qui érigeaient en duché les villes de Nepi et de Sermoneta. L'un fut donné à Jean Borgia, un des bâtards du pape qu'il avait eu en dehors de ses amours avec la Vanoza, et Julia Farnèse, et l'autre à Don Roderic d'Aragon, fils de Lucrèce et d'Alphonse. Les terres des Colonna faisaient les apanages de ces deux duchés.